2025 marque le 120e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, rédigée principalement par Aristide Briand. Dans le cadre d'un projet d'atelier radio et à l'occasion du 9 décembre, journée nationale de la laïcité, nous, jeunes de l'UAJ de Saint-Étienne et Radio Ondenne, vous proposons une discussion avec Abdelkader Relan, écrivain, conférencier et également directeur d'une mission locale en Haute-Loire et représentant du CORA, Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Pour ouvrir cette émission, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Noir, femmes et hommes d'âge et de situations variées, à leur demandant tout d'abord ce qu'évoque pour eux la loi de 1905.
Ça me dit quelque chose.
1905, moi ça me dit rien.
Si ça me dit quelque chose, mais...
C'est quoi la loi de 1905 ?
Ouais, c'est une bonne chose. Il y a de la diversité, il y a plusieurs... On vit ensemble, toute communauté, puis voilà quoi.
Avant je crois en France c'était la France était chrétienne, un truc comme ça. Je crois qu'elle était ralliée, les églises étaient ralliées au gouvernement, un truc comme ça. Après, ils sont détachés, c'est l'histoire. Hein.
Pour moi la loi 1905 c'est une loi de séparation entre l'église et l'État. C'est-à-dire que c'est une loi qui fonde... le fait que l'État français ne peut pas financer l'exercice du culte en France.
La loi de 1905 est la loi de séparation des églises et de l'État. Elle consacre l'indépendance de l'État par rapport aux différents cultes, mais aussi la liberté de conscience. Cela veut dire que l'État ne fait pas de préférence envers les religions et il ne les finance pas. Les citoyens ont eu le droit de croire ou de ne pas croire dans les convictions de leur choix, religieuses ou non.
Et cette loi est associée au nom d'Aristide Briand, le connaissez-vous ?
Je le connais pas du tout.
Ça me dit quelque chose. Ouais.
Je connais Aristide Briand, je connais, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Vaste question, je sais pas.
Oh là non, alors je connais deux noms, mais...
Aristide Briand, bah, j'ai déjà entendu le nom, mais je sais pas ce qu'il a fait.
Aristide Briand est un homme politique français, député de la Loire et principal acteur de la rédaction de la loi de 1905. Cette loi est née à la suite des débats virulents entre les différents camps, poussant la population française à la scission. Aristide Briand est parvenu à trouver une voie de compromis pour faire passer cette loi et apaiser le débat au sein de la population française.
120 ans donc pour cette loi sur la laïcité. D'ailleurs, comment définissez-vous ces termes ?
Alors pour moi, la laïcité, c'est le fait de créer un espace public qui permet aux gens de différentes religions et croyances de vivre ensemble.
Alors la laïcité pour moi et tout, c'est vivre et tout dans la société, bien intégré.
Pour moi, la laïcité, c'est le fait de ne pas être dans une religion. C'est-à-dire chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut.
Pas de religion, pas de signe religieux. En public, pas tout le monde qui a le droit de pratiquer leur religion à leur guise, comme ils veulent, surtout à l'école.
Pour moi, la laïcité, c'est le savoir vivre ensemble. Donc, ça veut dire respecter les religions de chacun, respecter, l'ethnie de chacun. Et c'est le bonheur pour tous et c'est souhaiter, le bonheur pour chacun.
C'est le droit d'avoir la religion qu'on veut.
La laïcité est un principe constitutionnel qui consacre la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens. Elle repose sur trois principes essentiels. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs convictions ou croyances.
Si l'on parle des religions, quelles sont-elles ?
Y a l'islam. Il y a le judaïsme, il y a des chrétiens, donc le christianisme, le bouddhisme. Après, c'est les plus grosses. Hein. Il y en a d'autres, mais après, les autres, j'en ai pas d'autres en tête.
Christianisme, hindouisme, bouddhisme, islam, judaïsme.
L'islam, le christianisme, les juifs. Et je sais pas,
Il y a les athées là.
Les athées?
Bah non, c'est pas une religion athée, ils sont pas de...
Judaïsme.
Bouddhisme.
Témoins de Jéhovah.
Mais quoi?
Bah ouais, ça existe, témoins de Jéhovah.
Ouais, les musulmans, les chrétiens. Après, il y a plusieurs types de chrétiens aussi. Il y a les chrétiens orthodoxes et tout.
Les athées aussi, non?
Non, c'est pas une religion.
Musulmans, christianisme, et je vais pas dire le mot.
Le judaïsme,
voilà, c'est ça.
Ouais.
Je connais le christianisme, il y a le bouddhisme, la religion musulmane, c'est les seuls que je connais.
Le christianisme, l'islam, et après il y a athée, non ?
On peut distinguer les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, des autres comme le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres croyances.
Pour poursuivre notre travail d'enquête, nous posons cette question. En quoi les religions peuvent-elles être importantes pour les citoyens français?
Ça, c'est une question compliquée, parce que la religion, ça relève de l'intime, en fait, de la vie personnelle des gens. Après, c'est le fondement de la vie de certaines personnes et ça détermine les valeurs qu'ils ont dans leur vie. Donc, je pense que c'est un peu important pour les Français. Mais pour pouvoir vivre ensemble, la France a décidé de ne pas mettre en avant la religion, mais de mettre en avant le vivre ensemble, l'engagement et certains domaines comme la santé, le sport, la culture, qui permettent de fédérer les gens plus que l'appartenance religieuse.
Chacun est libre de pratiquer sa religion, puisque tout le monde n'a pas les mêmes partie religieuse, et voilà pourquoi la France demande à ce que ça soit un pays laïque pour que chacun puisse pratiquer ce qu'il a envie.
Elles peuvent être importantes parce que déjà il y a des lois, on va dire chacun respecte les lois de sa religion, et en respectant les lois de la religion on respecte tout le monde. En tout cas c'est le message.
Maintenant, en quoi la laïcité est-elle importante pour les citoyens en France?
Je pense que c'est important, mais qu'ils devraient en prendre conscience.
Bah, ils peuvent faire leur propre choix vis-à-vis des religions et tout. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent par rapport à leur religion. Par exemple, un juif peut porter la kippa et tout. Une musulmane peut porter le voile. Et voilà.
Ouais, elle peut être importante parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est respecter tout le monde. Donc déjà, ça commence par le respect. C'est... si chacun se respecte, tout va bien.
D'être différent chacun, enfin, je sais pas comment dire.
Pour moi, c'est important à cause de mes origines. Et voilà.
La laïcité est indispensable afin de garantir la possibilité pour tous de croire ou non. Ce n'est pas une croyance parmi d'autres. C'est le principe qui rend toutes les croyances possibles.
Nous terminons ces micro-trottoirs avec cette demande. Quel autre mot pour vous s'associerait ou ferait écho à laïcité?
La paix.
La liberté.
L'égalité.
Espace commun à partage.
Le droit.
Le respect.
La restriction.
Vivre ensemble, voilà.
Bonjour Monsieur Relan, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour, donc je m'appelle Abdelkader Relan. Je suis directeur de la mission locale à Issingeaux. Je suis également donc le représentant du CORA, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et puis je suis aussi écrivain, j'écris des romans qui traitent justement des problèmes de laïcité, de la laïcité, qui traitent aussi des difficultés contemporaines que peuvent rencontrer certains jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Je suis aussi conférencier, je donne beaucoup de conférences et je fais des ateliers écriture. Alors des conférences sur les jeunes, parce que je connais bien les jeunes, sur les religions, sur la discrimination, le racisme, et je fais beaucoup d'ateliers écriture autour du rapprochement police-population. Voilà un petit peu pour avoir très rapidement une présentation. Puis ce que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi un ancien boxeur et un ancien champion de boxe. Voilà.
Sur le sujet, qu'évoque la religion dans le cadre de vos fonctions et dans le cadre personnel?
Alors dans le cadre de mes fonctions, c'est vrai que la religion, normalement, elle n'a pas franchement à être prise en compte dans mes fonctions en tant que directeur de mission locale. Je veux dire, la religion n'a aucune prestance à avoir, en tout cas dans mon activité de tous les jours. Après, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi travaillé beaucoup sur la radicalisation, sur la lutte contre la radicalisation. Et là, pour le coup, la religion avait une place importante dans mon action. Et globalement, en fait, ce que j'essaye de faire, moi, dans le cadre professionnel, hein, c'est plutôt de pousser les jeunes, les jeunes entre guillemets croyants, vers la connaissance. C'est-à-dire que parfois, on croit connaître sa religion, mais on ne la connaît pas, et on la méconnaît même. Et c'est souvent ce que j'ai pu voir à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire dans ma carrière. Après, à titre personnel, donc, bah, moi, je suis musulman, pratiquant, mais je fais vraiment la différence entre... la religion, parce que c'est de l'intime, là je réponds parce qu'on me pose la question, mais sinon en règle générale, c'est quelque chose qui est plutôt intime, j'en parle pas. Je trouve que la religion c'est quelque chose, voilà, c'est entre moi et Dieu, ou entre Dieu et moi, mais ça ne concerne pas les autres. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai tendance à pas parler de ma pratique religieuse. Et puis après aussi, quelque chose qui est hyper important, et ça vraiment, j'insiste, hein. Je suis croyant, mais je n'ai aucune certitude sur ma croyance. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à un catholique ou à quelqu'un de juif que moi j'ai raison et que lui il a tort. Voilà. Moi j'ai ma vérité, je pense que j'ai ma vérité, mais je n'ai en aucun cas la prétention de penser que moi j'ai raison et eux ils ont tort. Ou l'athée même d'ailleurs, hein, la personne qui est athée, elle a autant de raisons à penser que Dieu n'existe pas que moi j'ai des raisons de penser que Dieu existe. Voilà. Et ça c'est fondamental dans ma pratique quotidienne, de respecter l'autre dans sa croyance ou dans sa non-croyance.
Par rapport au micro-territoire que nous venons d'écouter, qu'est-ce qui vous ferait réagir ?
Il y a plein de petites choses qui me feraient réagir. D'abord, il y a eu des belles paroles, hein, et puis il y a quand même globalement une bonne compréhension de la laïcité en règle générale. Hein. Et après, ce qui me ferait réagir, c'est parfois le fait que, par exemple, il y a quelqu'un qui disait de suivre le droit de la religion ou les règles de la religion. Voilà. Et voilà, donc c'est encore une fois, ce qui ressort souvent, malheureusement, c'est qu'on croit tous bien connaître sa religion. Et en fait, c'est un tort, parce que personne ne connaît bien sa religion. Toutes les religions sont extrêmement difficiles à connaître. Pour connaître une religion, il faut être théologien, il faut être psychologue, il faut avoir fait de l'histoire. Enfin, il faut avoir vraiment connaître beaucoup de thématiques pour comprendre sa religion. Et ce qui ressort, entre guillemets, un peu du micro-trottoir, de ce que je pouvais entendre ici et là, c'est encore une fois, c'est ça, c'est qu'il y a la méconnaissance de la religion. Voilà. Moi, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est ne pensez pas que vous connaissez votre religion, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Pour la connaître, c'est des années et des années de travail, de connaissances, d'interprétation. Voilà. Et même moi le premier, hein, je me dis musulman, mais je n'ai qu'une infime connaissance de ma religion.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la loi 1905 ?
Alors en fait, très franchement, moi, ce que je garde de la laïcité, c'est que effectivement, ouais, pour moi, c'est le ciment qui permet de construire le mur du vivre ensemble. Voilà. Pour moi, ça, c'est fondamental. Ce qui est important dans la laïcité, ce qu'il faut retenir en fait, hein, c'est que c'est la capacité de pouvoir croire ou de ne pas croire. C'est la possibilité que notre pays nous permet, notre pays, la France, hein, nous permet de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que j'ai le droit de croire en Dieu, comme j'ai le droit de ne pas croire en Dieu. Et voyez, par exemple, vous, autant que vous êtes autour de la table, peut-être que vous êtes croyant, peut-être que vous êtes croyant, hein, et vous êtes croyant aussi, peut-être, parce que vos parents étaient croyants. Et vous êtes ce que j'appelle, moi, des croyants par hérédité. C'est-à-dire que vous avez hérité de la religion de vos parents. Et si demain, vous deviez dire, tiens, ben, j'ai plus envie de croire en Dieu, je n'ai plus envie, est-ce que vous pourriez le faire ? Ben non, parce que ça serait trop dur à accepter dans la famille, ça serait trop dur à accepter, entre guillemets, parfois dans la communauté, j'aime pas dire communauté, mais et la laïcité, elle vous permet de le faire. Voilà. C'est ça qui est important de retenir dans la laïcité, c'est que j'ai le droit de croire ou de ne pas croire. Et après, on en reviendra, mais moi j'ai envie aussi de vous poser une question. Est-ce qu'on est religieux ? Est-ce qu'on devient religieux par hérédité ? C'est-à-dire qu'on hérite de la religion de ses parents ?
Oui. Non.
Tu penses oui. Que oui ? On hérite de la religion de ses parents ?
Ah oui, oui.
D'accord. C'est-à-dire que par exemple, toi, est-ce que tu... Si c'est pas une question trop indiscrète, hein, toi, tu es de quelle religion ?
Moi, je suis musulman.
D'accord. Donc tu es musulman parce que tes parents étaient musulmans ?
Oui.
D'accord. Si tu étais né dans une famille catholique, tu serais catholique alors ?
Ben en fait, c'est un peu compliqué parce que mon père, il est chrétien et ma mère, elle est musulmane. Mais moi, je suis plutôt ma mère.
D'accord. Ok. Et toi ?
Moi, mes deux parents, ils sont musulmans.
D'accord. Et donc, tu es musulman par hérédité.
C'est ça.
D'accord. Si tu étais né dans une famille catholique, tu serais catholique.
Sûrement catholique.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est qu'en fait, c'est pas vous qui avez décidé. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé de votre foi. C'est-à-dire qu'elle vous, a été, entre guillemets, imposée. Et moi, c'est sur ça que je lutte. Moi, je dis toujours, la foi, il faut la choisir. Il ne faut pas qu'elle soit définie par votre lieu de naissance. C'est-à-dire que je décide d'être musulman, ou je décide d'être catholique, ou je décide d'être juif. Voilà, je le décide. Et c'est un travail. C'est-à-dire que j'étudie ma religion, je regarde si ce que la religion dit m'intéresse ou pas. Peut-être qu'elle ne m'intéresse pas, et au final, je me dirais, ben non, je ne crois pas en Dieu. Ou alors si, ça m'intéresse, et je creuse, et je regarde. Et c'est ça qui me fait, à un moment donné, devenir, entre guillemets, croyant ou non croyant. Voilà.
Que pensez-vous qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de loi de 1905 ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. On ne m'a jamais posé cette question. Ben, qu'est-ce qui se serait passé ? Ce serait passé ce qui s'est passé dans plein d'autres pays, c'est-à-dire que peut-être la France serait restée un pays catholique. C'est-à-dire que, par exemple, tu as plein de pays qui sont... par exemple, tu vois, tu as la République démocratique algérienne, mais c'est la religion... c'est la religion musulmane, tu vois. Il y a des pays comme ça où la religion fait partie du cadre légal de la nation. La France, la chance qu'on a, c'est qu'on est, on n'est pas dans un pays musulman, on n'est pas dans un pays catholique. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, dans certains pays musulmans, par exemple, les lois sont aussi inhérentes à la religion. Tu vois, l'héritage, les questions d'héritage, elles font partie de ce qui est transcrit à travers le Coran, par exemple. En France, on n'a pas ça. En France, les lois, c'est les lois, et elles sont déconnectées de tout ce qui est religieux. Voilà. Donc voilà, si pour te répondre à ta question, on serait dans un pays catholique. Et vous connaissiez la laïcité avant de vous intéresser au sujet ? Vraiment ?
Oui.
Ouais, tu connaissais, t'avais déjà cette... T'avais appris où ça ?
T'avais à l'école.
À l'école ? On t'avait parlé de la laïcité à l'école ? Oui. Toi, c'est pareil ?
Non.
Non ?
Non. Moi, je l'ai appris... Enfin, je savais qu'est-ce que c'était, mais je n'ai jamais entendu parler.
D'accord, ok. Et pour toi, ça te semble important ou pas ?
Ouais. Beaucoup.
Pourquoi êtes-vous engagé au Coran ?
Alors, pourquoi je suis engagé au Coran ? En fait, c'est arrivé par hasard. En fait, un jour, j'étais à une réunion en préfecture. Alors avant, ce n'était pas le Coran, c'était la COPEC. Ça a changé après. Mais il y avait une réunion de la COPEC à l'époque. Et puis, je la ramenais beaucoup en parlant de discrimination, en disant qu'il fallait lutter contre les discriminations. Enfin, j'étais un peu allumé dans le sens où je revendiquais le fait qu'il fallait lutter contre les discriminations pour promouvoir l'égalité de tous. Et le préfet de l'époque m'a regardé... longuement, et puis ensuite il m'a envoyé le secrétaire général de la préfecture et qui m'a demandé, écoutez, voilà, vous parlez, vous dites, on vous propose de prendre le secrétariat de la COPEC à l'époque pour changer les choses. Et c'est comme ça que je suis rentré à la COPEC et puis ensuite la CORA. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'essaye de faire à travers mon engagement, alors aujourd'hui je fais partie de la CORA, je ne suis plus le secrétaire parce que ça a changé, le mode de fonctionnement a changé, mais globalement ce que j'essaye de faire, c'est de promouvoir l'égalité pour tous et faire en sorte qu'on reste tous différents, mais qu'on ait tous les mêmes droits et qu'il y ait une égalité de traitement pour tout à chacun. En fait. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire avec des actions au quotidien, dans les entreprises, auprès des bailleurs, dans les associations. Enfin, voilà, j'essaye aussi de promouvoir le fait qu'on le vivre ensemble soit important. Et puis j'essaye de lutter contre la méconnaissance des religions en règle générale.
J'ai une question aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui fait la différence entre non-musulmans et musulmans ?
Qu'est-ce qui fait la différence entre un musulman et un non-musulman ?
Oui.
Alors ça, c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours été musulman. Donc voilà, même si j'ai beaucoup travaillé sur ma foi, c'est-à-dire que moi, par contre, j'ai refusé vraiment le fait que voilà, mon père était musulman, ma mère était musulmane, et donc moi, je suis musulman. J'ai refusé ça, moi, en fait. J'ai refusé. J'ai dit non. Je ne veux pas être musulman par hérédité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment douté de l'existence de Dieu. Vraiment. J'ai lu des livres. Hein, j'ai lu beaucoup de livres de Nietzsche, de Pascal. Enfin, des gens qui remettent en question l'idée que Dieu existe. Et donc, parfois... voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours des doutes. Hein, je n'ai aucune certitude. Voilà. Moi, je crois en Dieu, mais je n'ai aucune certitude. Voilà. Et donc, ce qui fait la différence d'un musulman et d'un non-musulman, il n'y a pas tellement de différence en fait. Il y a simplement une personne qui va croire qu'après la mort, il y a quelque chose. Et il y en a une autre qui va croire que si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, pour moi, c'est cette différence-là. Après, bon, bien sûr, parce que vous savez, souvent on dit quoi, la religion, elle apporte des valeurs. Mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ont beaucoup de valeurs. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire... d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Chez nous, ça ne se fait pas ». Et dans mon livre, j'explique, je mets en avant une femme qui... n'est pas musulmane, mais qui a un comportement de musulmane, ouais. Vous voyez, donc je le mets en avant. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence, en fait.
Monsieur, des fois, j'attends que les gens disent souvent, la différence est que c'est la prière.
Oui, la prière, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parfois, il prie dans sa tête. Hein. Parfois, il dit, j'espère que, ouais, tu vois. Et quand tu dis j'espère que, c'est d'une certaine manière, c'est une certaine prière, tu vois. Quand tu dis, si seulement je pouvais, ou si seulement il m'arrivait ça, ou, tu vois, d'une certaine manière, c'est comme si quand je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, et que si tu dis, si seulement je pouvais, si seulement quelque chose pouvait m'aider, tu vois, tout le monde prie, on prie tous, en fait, à un moment donné, quand on est en difficulté, quand on a des galères au quotidien, ben, on prie, on espère. Et l'espérance, c'est quoi? Ben, c'est, d'une certaine manière, une prière.
Mais est-ce que la prière est importante pour les musulmans?
La prière, elle est importante pour les musulmans. Alors après, tu sais, comment dire, moi, je prie, donc il y a 5 prières, mais tu sais, quand tu lis le Coran, certaines personnes te disent, ben non, en fait, il y a 3 prières, il y en a, tu vois, il y en a qui ne prient pas, il y a des musulmans, parce qu'il y a plusieurs types de musulmans, en fait, aussi. Hein. Tu vois, t'as les soufis qui, eux, ont une croyance très spirituelle, tu vois, très, pas attachée au dogme. Vous savez ce que c'est que le dogme? Non, le dogme, c'est tout ce qui est, entre guillemets, demandé dans la religion. C'est-à-dire, il faut prier, il faut manger halal, il ne faut pas manger de porc. Ça, c'est le dogme, tu vois. Voilà. Eh bien, il y a des gens qui sont croyants, mais sans prendre le dogme, sans prendre en compte le dogme. Puis après, il y en a d'autres comme moi qui prenons en compte le dogme. Qui a raison, qui a tort, je n'ai pas la réponse, en fait, tu vois. J'ai pas de certitude. Vous savez, je vais essayer d'être très, très rapide, mais... Vous savez ce que c'est que la certitude? Pourquoi c'est, pour vous, c'est quoi la certitude?
C'est être sûr de quelque chose avec des preuves.
Avec des preuves?
Si on n'a pas forcément de preuves, du coup, on ne peut pas être sûr.
D'accord. Donc, par exemple, tu crois en Dieu?
Oui.
Tu as des preuves?
Oui. Enfin, pas des preuves matérielles, mais voilà.
Il n'y a pas de preuves matérielles, ça n'existe pas, tu vois. Dans aucune des religions, il n'y a aucune preuve matérielle, tu vois. Donc, pourtant, tu es certain que Dieu existe.
Oui.
Voilà. Mais pourtant, tu n'as pas de preuves formelles.
Pas de preuves formelles.
Formelles, ça n'existe pas. Hein. Bon, voilà. Et toi, la certitude, c'est quoi pour toi? C'est dur, la certitude.
Ben, en vrai, c'est de croire à sa religion et d'être comme on est.
Ouais.
Genre, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Et comme moi, chez moi, c'est... Je sais pas, moi, je crois à ma religion.
D'accord. Alors, la certitude, je vais essayer de donner une image. Hein. Pour moi, la certitude, c'est... Il faut imaginer que ton cerveau, c'est une maison. D'accord? Imagine ton cerveau, c'est une maison. La certitude, c'est que tu as une maison... où tout est fermé. Les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, les volets sont fermés. Il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort. Donc c'est une maison où ça sent le renfermé. Une maison où ça sent le renfermé, ça ne sent pas bon, il y a des toiles d'araignée, c'est pas top, quoi. Alors que le contraire de la certitude, c'est le fait de douter, de pouvoir douter, c'est il faut imaginer une maison où les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, les volets sont ouverts. Et qu'est-ce que c'est? C'est une maison où c'est aéré. C'est aéré, il y a plein de choses. Ben, c'est ça, le contraire de la certitude, c'est ça. C'est de laisser rentrer les idées, puis après, soit tu les acceptes et tu les laisses dans la maison, soit tu les acceptes pas et tu les dégages de la maison, tu les mets dehors de la maison, voilà. Eh bien, la certitude, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je dis toujours, la certitude, c'est la mise en arrêt de l'intelligence. C'est-à-dire, quand on est certain de quelque chose et qu'on ne cherche pas à creuser, eh bien, on n'apprend plus, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai eu la chance de laisser entrer plein d'idées dans la tête, plein. J'ai ouvert les fenêtres au max et j'ai laissé rentrer un maximum d'idées pour après faire mon choix.
Moi, j'aurais une question. En fait, tout ce qui est chrétien et musulman, moi, ça m'a dit que comme quoi que c'était presque pareil. Enfin, que nous, on était différents, qu'on pratiquait genre différents et tout. Mais que entre musulmans et chrétiens, bah, si tu lis, tu vois bien qu'eux, ils ont la Bible et nous, on a notre Coran. Bah, en fait, si tu les relis ensemble, c'est presque pareil. Sauf que c'est... Je sais plus comment on dit, mais genre, c'est...
C'est le même tronc commun. Mais en fait, voilà. je vais aller plus loin, en fait. Oui. C'est pour ça que je te dis, ce qui est important, c'est de connaître la religion. Et donc, prenez le temps d'aller connaître. Allez voir des gens qui connaissent et qui peuvent vous enseigner la religion. Et ça, c'est important, et je l'ai dit à tous les auditeurs. Vous pensez connaître votre religion, mais vous ne la connaissez pas en règle générale. Donc, prenez le temps d'aller l'apprendre. Et par exemple, tu vois, le Coran, il vient de la Bible qui vient de la Torah, en fait. Voilà. C'est le même tronc commun. C'est-à-dire, quand tu prends la Bible et la Torah, c'est le même tronc commun. Le Talmud, c'est le même tronc commun. Voilà. Donc, en fait, c'est le même Dieu pour les trois. C'est le même livre pour les trois, quasiment. Voilà. Mais après, voilà, il y a des choses qui changent un petit peu. Mais globalement, c'est le tronc commun, ce qu'on appelle le tronc commun, c'est le même.
Pensez-vous que la laïcité va être mise en question ou pas ?
Je crois pas, non. Non, non, ben non, parce qu'elle a fait ses preuves, la laïcité, tu vois. Après, il y a un petit truc, c'est que parfois, certaines personnes pensent que la laïcité, elle a été faite aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est, entre guillemets, elle est dirigée contre les musulmans. Alors que c'est pas le cas, en fait. C'est pas du tout le cas. La laïcité, elle existe depuis 1905. Donc, vous voyez, en 1905, il y avait des musulmans en France, hein, mais il n'y en avait pas. C'était pas la question, elle les concernait pas. C'était plutôt dirigé vers la religion catholique à l'époque. Hein. Et je pense pas que la laïcité soit remise en question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un fondement de notre République. Ça, c'est super important. Mais après, ce qu'il y a, c'est que il faut aussi accepter la laïcité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le droit de croire ou de ne pas croire. Et puis aussi, après, voilà, pas de prosélytisme. Tu vois, il y a toutes ces... Prosélytisme, vous savez ce que c'est, non ? Prosélytisme, c'est quand tu essayes de promouvoir ta religion. C'est-à-dire que tu vas et tu vends ta religion. Imagine, demain, tu travailles, et puis dans ton travail, tu essayes de convertir tes collègues. Prosélytisme, c'est un peu ça, tu vois. Donc, voilà. Et donc, il y a des règles par rapport à la laïcité, et on se doit de suivre ces règles. Mais moi, j'ai envie de te dire que en France, j'ai la chance vraiment incroyable de pouvoir vivre ma religion, mais tranquillement, sans que personne m'embête. Je peux faire ma prière, je peux manger halal, je peux aller à la mosquée si j'ai envie, quand je veux. Enfin, je peux faire ce que je veux, en fait, en France. J'ai vraiment cette chance-là, personne ne m'en empêche. Il y a des pays où tu ne peux pas. Il y a des pays où tu ne peux pas pratiquer ta religion. On t'en empêche, tu vois. Donc on a cette chance en France. Et donc c'est pour ça que la laïcité, elle est fondamentale, parce qu'elle nous permet ça. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est une question difficile, attention. Qu'est-ce qui est le plus important ? Les lois de Dieu ou les lois de la République ?
Ça dépend des pays.
En France.
Le plus important pour qui ? Pour nous ?
Pour vous. Ouais. C'est dur, hein ?
Moi, je dirais les deux.
Les deux ?
Ouais. Ouais.
En vrai, personnellement, ouais. Moi, dans ce que je pense au plus profond de mon cœur, ouais. Non, moi, je pense ma religion.
Les lois de Dieu ?
Ouais.
D'accord. Et imagine si, par exemple, chacun, tous ceux qui ont leur religion, hein, mm-hmm. se disaient les lois de mon Dieu sont plus importantes que les lois de la République. Est-ce qu'on pourrait vivre ensemble ?
Oui.
Oui.
Tu crois ?
Parce que dans toutes les religions, normalement, c'est des religions de paix. C'est juste qu'il y a des gens qui arrivent à apprendre les religions, les détourner à leur avantage.
Oui, mais tu dis que c'est des religions de paix. Pourtant, tu le sais, dans des attentats, et là, pour le coup, pour toutes les religions, on a tué au nom de la religion.
Mm.
Parce que, en fait, ce qui se passe avec la religion, c'est que chacun l'interprète à sa manière. C'est-à-dire que toi, quand tu vas lire le Coran, moi, je vais le lire, on ne va pas avoir la même lecture. Toi, tu vas l'interpréter d'une certaine manière, moi, je vais l'interpréter d'une certaine manière. Et donc, si, en termes d'incompréhension du texte, chacun dans les différentes religions avait une mauvaise interprétation du texte, tu crois que la paix, elle serait possible ?
Ah non.
Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné... Tu peux avoir ce qu'on appelle les guerres de religion. Et l'avantage des lois de la République, c'est qu'à un moment donné, elles figent tout ça. Et les lois, elles sont là pour justement faire en sorte que peu importe ta religion, on ait tous les mêmes règles. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que... Et dans les religions, en règle générale, on te dit, il faut suivre les lois du pays. Parce que la religion... Mais la religion, en règle générale, elle est intelligente, normalement. Et elle te dit, voilà, si les gens veulent vivre en paix alors qu'ils n'ont pas la même religion... Ils sont obligés d'avoir des règles communes. Et les règles communes qu'on a, nous, en France, c'est la République. C'est les règles de la République. Merci beaucoup.
Oh, ben on vous remercie.
Merci, c'est moi.